j'avais examiné au cours de la dernière leçon quelques formes de comparatisme ethnographique fondées sur la généralisation inductive, soit de notions autochtones transformées en concepts anthropologiques par l'extension arbitraire de leur champ sémantique, totem, tabou, chaman, mana, eau, etc., soit de dispositions locales converties en schémas analytiques par abstraction de leurs implications, comme l'englobement hiérarchique de Louis Dumont, soit enfin d'énoncés vernaculaires métamorphosés en systèmes philosophiques, comme l'ontologie bantoue et différentes formes de métaphysique régionale. Et j'avais conclu en soulignant que ces diverses formes d'abstraction, par généralisation, présentaient toutes l'inconvénient de bouleverser, de minimiser, voire d'ignorer les conditions pragmatiques d'énonciation et d'usage des notions ou des propositions locales que l'anthropologie et la philosophie avaient à raisonner, avec les meilleures intentions d'ailleurs, afin de compléter l'arsenal analytique de la modernité ou afin d'opposer à celle-ci une alternative qui demeurait néanmoins purement interne en dépit des apparences. Je souhaite à présent me pencher sur des formes de comparatisme non plus ethnographiques, mais anthropologiques, c'est-à-dire de nature déductive, organisées selon une opération en trois étapes: induction de lois, de principes ou d'hypothèses, application de ces lois, principes ou hypothèses à des phénomènes, vérification de la légitimité de la déduction au moyen de la comparaison. Comme je l'avais rappelé lors de la précédente ou d'une précédente leçon, c'est John Stuart Mill qui a développé dans son traité de logique les implications de cette forme de la méthode déductive, tout en doutant que l'on puisse l'appliquer aux phénomènes sociaux, tant étaient nombreuses les variables à considérer. On y arriverait peut-être un jour, conjecturait Mill, en induisant des lois à partir de l'examen de phénomènes simples, des phénomènes de nature psychique pour lui, afin de tester leur potentialité déductive sur des phénomènes complexes comme les faits sociaux. Or, c'est cette voie qu'ont commencé à suivre, à partir du milieu du XXe siècle, tant l'anthropologie cognitive que l'anthropologie structuraliste. L'anthropologie cognitive l'a fait dans la droite ligne du projet caressé par Mill, à savoir en appliquant déductivement à l'explication de certains phénomènes collectifs les règles de fonctionnement de l'esprit proposées par la psychologie. L'anthropologie structuraliste l'a fait en dissociant nettement, d'une part, l'induction d'hypothèses abstraites par généralisation à partir des données ethnographiques, d'autre part, la construction de modèles déductifs permettant de tester ces hypothèses au moyen de la comparaison. Alors, on va examiner tour à tour ces deux expressions de la méthode déductive, en commençant aujourd'hui par le traitement des classifications ethnobiologiques dans l'anthropologie cognitive. Pourquoi les classifications ethnobiologiques, c'est-à-dire les classifications portant sur les organismes ? Parce que c'est sans doute le champ de recherche dans lequel l'espoir de connecter des caractéristiques de la cognition humaine à des productions culturelles, et donc de déduire les secondes des premières, est le moins déraisonnable. Plusieurs raisons militent en ce sens. En premier lieu, aucun autre domaine, hormis celui des couleurs, n'a autant retenu l'attention des recherches comparatives et suscité autant de travaux empiriques. les débats qui se sont développés à ce propos étant transposables aux problèmes que soulève en général l'étude de la catégorisation. En second lieu, la catégorisation des organismes semble posséder certaines caractéristiques propres, notamment le fait qu'elle se présente souvent sous une forme taxinomique, c'est-à-dire avec une hiérarchie d'inclusion à plusieurs rangs, ce qui est beaucoup plus rarement le cas dans d'autres domaines de classification d'autres objets, tels par exemple les émotions ou les artefacts. Le critère principal dans le cas de la catégorisation des organismes est celui de la substituabilité d'un taxon d'un rang inférieur par un taxon de rang supérieur, par exemple d'un organisme volant. Je peux dire que c'est un milan, ou à défaut que c'est un rapace, ou même à défaut que c'est un oiseau, et même dans certaines circonstances, je peux dire que c'est un animal. Tandis que des émotions comme l'amour et la haine, par exemple, ne sont pas des catégories de l'orgueil ou de la compassion, ou les tabourets, les poufs ne sont pas des catégories des chaises. Il est possible aussi, bien que cela soit encore controversé, que la perception et la distribution taxinomique des êtres vivants soient activées par un dispositif cognitif spécifique correspondant à ce que les psychologues du développement appellent une théorie naïve. Ce n'est pas une très bonne expression, c'est un schème d'inférence présumé universel qui structure les attentes de tout individu quant au comportement et aux caractéristiques des organismes. C'est soit... Alors, il y a des controverses quant à ces théories naïves. Pour certains psychologues du développement, elles sont innées. Pour d'autres, elles sont progressivement acquises au cours du développement. Je reviendrai à cela dans un moment. Enfin, et dans la mesure où la plus grande partie de l'histoire des humains s'est déroulée dans le contexte d'une interaction intime et permanente avec les plantes et avec les animaux, il n'est pas illégitime de penser que l'activité cognitive a été modelée en profondeur par cette expérience. De ce fait, la catégorisation des organismes constitue un champ d'enquête privilégié pour examiner la façon dont des traits de la cognition humaine réputée universelle peuvent ou non servir à déduire des caractéristiques elles-mêmes réputées universelles de pratiques culturelles présentes parmi toutes les populations humaines, étant entendu par ailleurs que ces déductions s'appuient pour le moment sur des théories psychologiques concurrentes. Certaines de ces théories psychologiques privilégient la classification par similitude d'attributs, d'autres font primer l'inférence causale, d'autres enfin mettent l'accent sur la classification prototypique. Je vais examiner ces théories tour à tour, non pour me prononcer sur leur validité ou sur leur vraisemblance du point de vue de la psychologie, parce que ce n'est pas le rôle de l'anthropologie, mais pour comprendre, pour mieux comprendre, le type de déduction que chacune opère depuis un principe cognitif vers un fait culturel. Mais peut-être n'est-il pas inutile, pour commencer, de préciser ce que l'on entend par classification des organismes ou des êtres vivants. Au sens large, l'expression recouvre trois modes de catégorisation qu'il importe de distinguer, même s'il arrive parfois qu'on les trouve combinés. Le plus commun, à tout le moins celui auquel cette branche de l'ethnologie qu'on appelle l'ethnobiologie s'est majoritairement intéressée au cours des 40 ou 50 dernières années, c'est la taxinomie hiérarchique aboutissant à des nomenclatures arborescentes de plantes et d'animaux qui comportent au moins deux rangs. Le deuxième type de système, c'est celui des classifications par grandes classes contrastives que l'on qualifie généralement d'utilitaires et qu'il vaudrait mieux définir comme pragmatiques ou comme motivées dans la mesure où les critères d'inclusion font généralement référence à une propriété qui n'est pas intrinsèque à l'objet classé, mais qui dépend d'une caractéristique réputée réelle ou imaginaire que l'observateur prête à cet objet en fonction des usages matériels ou des usages idéels auxquels il le destine. Par exemple, animal pur ou animal impur, ou bien une plante ou les plantes que l'on peut offrir en prémisse aux divinités et celles qui ne conviennent pas à cette fonction. À la différence des taxinomies, ces classifications par classe d'attributs ne sont donc pas structurellement hiérarchiques, même si la combinaison de plusieurs critères peut aboutir à leur hiérarchisation conventionnelle. Si, par exemple, la distinction entre animal comestible et animal non comestible peut être croisée avec une distinction entre animal néfaste et animal faste, là, il n'y a pas, comme c'est le cas dans les classifications taxinomiques, de préséance logique d'un critère sur un autre. Un animal classé comme comestible peut être faste ou néfaste de façon subsidiaire ou vice-versa. Donc la hiérarchie, elle est ici entièrement pragmatique. Le troisième type de système est celui des classifications que l'on peut appeler, que l'on pourrait appeler cosmologiques, en ce qu'elles incluent des organismes dans des classifications plus englobantes, où ces objets sont associés à des entités qui relèvent d'autres classes ontologiques, ou en tout cas d'autres classes ontologiques pour les Occidentaux qui les observent, tels des groupes sociaux, des orients, des couleurs, des fonctions, etc. Il s'agit au fond d'une sorte d'extension du type de classification précédent qui prend la forme d'un tableau d'attributs dans lequel l'inclusion est gouvernée moins par une multiplication de critères que par un raisonnement analogique du genre A est à B comme A' est à B'. L'inclusion pouvant être très englobante par dérivation transitive. Par exemple, le blaireau est à l'aigle, ce que la pomme de terre est au tournesol, ce que la terre est au ciel, ce que le rouge est au noir, ce que le nord est au sud. Vous pouvez continuer comme ça pendant très longtemps. Chacun de ces types de classification mobilise un mode de connaissance différent. Si l'on reprend une distinction utile qu'avait jadis proposée Dan Sperber dans son livre Le symbolisme en général, on peut dire que les taxinomies hiérarchiques font appel à un savoir sémantique, les classifications par classe contrastive font appel à un savoir encyclopédique et les classifications cosmologiques font appel à un savoir symbolique. Le savoir sémantique, donc celui qui caractérise les classifications taxinomiques, c'est un savoir qui est fini et qui porte exclusivement sur les catégories, c'est-à-dire sur les conditions d'inférence permettant la subsomption d'un objet dans une classe sans faire appel à des connaissances particulières au sujet de cette entité. Tout ce qui est nécessaire pour dire d'un milan ou d'une buse que c'est un rapace et d'un rapace que c'est un oiseau, c'est de connaître les rapports analytiques d'inclusion entre ces trois catégories. Par contraste, le savoir encyclopédique et le savoir symbolique sont en droit infini du fait qu'ils portent sur le monde. Le premier, le savoir encyclopédique de façon directe, en spécifiant les connaissances cumulatives, révisables et variables selon les individus qui se rapportent à l'objet catégorisé. Par exemple, le chêne n'est pas le même être selon que l'on est botaniste, forestier, menuisier ou éleveur de truffes. Et le second, le savoir ou les classifications symboliques, et qui se réfère donc à un savoir symbolique, porte également sur le monde, mais de façon indirecte, sous la forme de jugements synthétiques au sujet de propositions concernant le savoir encyclopédique. Ce sont donc des énoncés qui ne portent pas sur des mots ou qui ne portent pas sur des choses, mais qui expriment des croyances formées à partir de ce que nous savons des choses. Pour dire, par exemple, du chêne qu'il est le roi de la forêt, il faut déjà connaître quelques propriétés du chêne. Il faut déjà avoir un savoir encyclopédique sur le chêne. De même, pour dire du lion qu'il est le roi de la savane, il faut savoir ce qu'est la savane et le lion et l'ensemble des animaux qui peuplent cet écosystème. Or, c'est surtout dans l'élucidation des taxinomies hiérarchiques et accessoirement dans celle des classifications par classe contrastive que peut se poser en anthropologie la question de l'application déductive de lois cognitives ou de principes cognitifs, si le terme loi paraît excessif, à des phénomènes sociaux. En effet, les classifications cosmologiques sont le plus souvent abordés par les anthropologues en mode inductif, c'est-à-dire traités comme exprimant non pas des lois psychiques ou des principes cognitifs, mais des particularités culturelles, c'est-à-dire relevant d'un choix arbitraire, parfois contre-intuitif, de privilégier certains traits d'un organisme aux dépens d'autres traits, à l'instar d'un exemple fameux qui est la classification de l'aigle comme un être terrestre par les ossages, qui sont des Sioux méridionaux, que Lévi-Strauss évoque dans un passage de La pensée sauvage. Je rappelle que cette catégorisation, la classification de l'aigle comme un animal terrestre, est motivée par le fait que les ossages associent l'aigle à l'éclair, qu'ils associent l'éclair au feu, qu'ils associent le feu au charbon, qu'ils associent le charbon, assez logiquement, à la terre. Donc, prise individuellement, chacune de ces analogies est parfaitement plausible, à commencer évidemment par la première, qui repose sur une analogie dynamique entre l'aigle fondant sur sa proie et la chute de l'éclair. Et on peut dire sans doute que les anthropologues ont le plus souvent abordé les classifications cosmologiques dans le droit fil, même s'ils ne s'y réfèrent pas toujours, d'un fameux essai de Durkheim et Mauss, qui est l'essai sur de quelques formes primitives de classification, qui est un essai qui date de 1903, c'est-à-dire comme si ces classifications n'étaient que la projection sur le monde vivant de représentations collectives concernant l'ordre social, et donc comme si l'esprit était une tabula rasa à la connaissance de laquelle la psychologie n'avait rien à apporter. Donc, c'est la position par défaut d'une grande partie de ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie symbolique portant sur les classifications elles-mêmes symboliques. Donc, c'est au premier chef les classifications taxinomiques et les classifications contrastives qui vont fournir la matière de mes analyses sur la façon dont l'anthropologie déduit des propriétés sociales ou des propriétés de phénomènes sociaux, plutôt, à partir de lois psychologiques. Commençons par les taxinomies. Depuis un article célèbre de Brent Berlin, Dennis Breedlove et Peter Raven, qui a été publié en 1973 dans la revue American Anthropologist, qui s'appelle General Principles of Classification and Nomenclature in Folk Biology, article qui a été développé ensuite par Brent Berlin, qui est la grande figure de l'analyse contemporaine des classifications taxonomiques, qui a été développé donc par la suite en 92 dans une vaste et magistrale synthèse dans une monographie qui s'appelle Ethnobiological Classification. Depuis cette époque, donc, la plupart des spécialistes d'ethnobiologie s'accordent sur le fait que les taxonomies populaires d'objets naturels possèdent partout une structure identique. Cette structure, elle s'organise, selon eux, selon une hiérarchie inclusive de taxons qui, sous sa forme la plus complète, comporte 6 rangs. Le plus englobant, le niveau du règne, c'est-à-dire le taxon plante ou le taxon animal, est rarement nommé, et moins encore le niveau supérieur que Brent Berlin ne prend pas en compte et qui ferait référence à la catégorie ontologique des organismes, des êtres vivants, par contraste, par exemple, avec des objets inorganiques ou avec des artefacts, une distinction qui n'est pas tellement courante non plus sur le plan linguistique. Et sous le niveau du règne, donc, se situe le niveau de la forme de vie, qui définit quelques types morphologiques hautement distinctifs associés à un habitat ou associés à une niche écologique spécifique, c'est le taxon arbre, le taxon poisson, le taxon oiseau, etc. Le niveau dit intermédiaire, donc on descend à partir des rangs supérieurs, c'est comme ça que les spécialistes l'appellent, correspond à des subdivisions des formes de vie, parfois non nommées, qui regroupe un petit nombre de taxons génériques présentant de fortes ressemblances, c'est par exemple l'opposition entre feuillus d'un côté et conifères de l'autre. Le niveau générique peut être considéré comme le niveau de base, c'est-à-dire celui qui, dans presque toutes les taxonomies populaires, compte le plus grand nombre de taxons, la plupart d'entre eux étant non divisibles, monotypiques, c'est-à-dire avec un seul lexème. Le niveau spécifiques, donc ces chênes par exemple, ou milans, le niveau spécifique constitue une subdivision de taxons du niveau générique. Donc ça, pour chêne, ça serait chêne rouve, chêne liège, chêne nain, chêne vert, etc. Et le niveau variétal, enfin, est le niveau de subdivision terminale et accueille en général des noms de variétés cultivées, de cultivars. Pour la majorité des spécialistes d'ethnobiologie, c'est ce type de nomenclature taxonomique qui représente le paradigme de la classification des êtres vivants et celui qui, en conséquence, retient au premier chef leur attention. On a là une situation un peu paradoxale. En effet, la hiérarchie taxonomique, donc ce système d'inclusion de taxons à plusieurs niveaux, est en effet une architecture mentale assez simple dont des spécialistes d'ethnobiologie comme Brent Berlin postulent qu'elle est quasiment le produit d'une constante perceptive, à tout le moins une traduction exacte de ce qui est perçu dans la nature. Je cite Brent Berlin dans Ethnobiological Classification, les humains sont partout contraints essentiellement de la même façon par le plan de base de la nature, le plan de base de la nature, dans leur reconnaissance conceptuelle de la diversité biologique de leurs environnements naturels. Berlin concède sans doute que l'organisation sociale, le rituel, les croyances, la religion, l'esthétique, peuvent être des productions singulières relatives à chaque culture. En revanche, dès qu'il s'agit d'appréhender et de nommer des groupes de plantes et d'animaux, je cite encore Berlin, les hommes ne construisent pas un ordre, ils le discernent. C'est vraiment une constante perceptive. Donc la nature, dans cette perspective, se présente à l'expérience sensible comme un ensemble discret, un ensemble borné de discontinuité dont la structure serait perçue de manière identique dans toutes les cultures, même si toutes les cultures n'épuisent pas au même degré ces discontinuités dans leur classification. Peut-être sensible à une discontinuité sans que cette discontinuité se traduise sur le plan linguistique par une catégorie. Autrement dit, pour Berlin, l'étude anthropologique des classifications d'organismes ne peut que confirmer une sorte de constat inversé. L'universalité des taxinomies hiérarchiques établirait l'universalité des mécanismes qui les rendent possibles, et c'est donc, au fond, l'inverse d'une déduction, puisque, au lieu d'appliquer des lois psychologiques pour expliquer un phénomène culturel, on tire ici parti de l'universalité réputée du phénomène pour inférer à sa source un mécanisme universel. Alors, lorsque des principes cognitifs sont invoqués pour expliquer la classification des organismes, quels sont ces principes ? La plupart des psychologues s'accordent à penser que les opérations de catégorisation font appel à deux mécanismes distincts, d'une part la classification par attribut, d'autre part la classification par reconnaissance d'un schème ou d'un modèle. La première, la classification par attribut, établit une relation d'appartenance à une classe par un jugement prédicatif en vertu duquel les caractères spécifiques reconnus dans un objet quelconque sont la condition nécessaire et suffisante de l'appartenance à une classe. Donc, si je distingue dans un organisme un bec et des ailes, ces deux caractéristiques sont la condition pour pouvoir, c'est la classification par attribut, classer cet objet dans la catégorie des oiseaux. Deuxième mécanisme de classification, qui est la classification par reconnaissance d'un schème ou d'un modèle, s'appuie sur la reconnaissance d'un élément saillant. Le plus communément, c'est ce qu'on appelle un prototype, qui permet d'isoler une classe, en général, du fait des similitudes d'apparence ou des similitudes de comportement. Dans le premier cas, on suppose qu'il existe des primitives sémantiques et que la combinaison d'un petit nombre d'entre ces primitives sémantiques permet de définir de façon univoque n'importe quelle plante ou animal. Dans le second cas, on suppose qu'il existe des universaux psychophysiques dans la perception des espèces vivantes, de sorte que la nomination ne ferait qu'entériner la reconnaissance d'une discontinuité naturelle. Or, les anthropologues qui s'intéressent aux classifications ethnobiologiques ont eu tendance, dans un premier temps, il y a longtemps, à privilégier la classification par attribut, dans le cadre de ce que l'on a appelé l'analyse par composante, componential analysis en anglais, puis à partir du milieu des années 1970, à ne plus accorder de crédit qu'à la classification par reconnaissance intuitive d'un modèle ou d'un schème. Il paraît pourtant fort probable, je vais revenir dans un moment sur cette question, que les deux procédures jouent également un rôle dans la catégorisation des organismes, mais dans des types de classification différents et à des niveaux différents de la hiérarchie taxinomique. Un mot sur la classification, ce qu'on appelait l'analyse par composante et son application aux classifications ethnobiologiques. On s'est très rapidement rendu compte de l'inadéquation de cette façon de rendre compte des classifications des êtres vivants, raison pour laquelle ses partisans, je pense en particulier à deux figures importantes qui sont Floyd Lansbury et Ward Goodenough, ont consacré l'essentiel de leurs efforts, non pas aux classifications d'êtres naturels, mais aux terminologies de parenté. En effet, les terminologies de parenté ont pour caractéristique de constituer des terminologies ou des nomenclatures maîtrisables, c'est-à-dire qui dépassent rarement une trentaine de termes, une trentaine de lexèmes, et de pouvoir, chacun de ces lexèmes, être décomposable sans peine en primitives sémantiques plausibles, en général fondées sur le sexe et sur le niveau générationnel. Ce qui permet donc la constitution de tableaux paradigmatiques qui comportent un nombre raisonnable de dimensions contrastives. On a donc un grand nombre d'analyses par composante de nomenclature de parenté fondées sur ce principe. La situation est très différente, évidemment, avec les nomenclatures de la faune et de la flore. Pour prendre le cas des nomenclatures de la faune, on sait qu'elles comportent en général entre 400 et 600 lexèmes dans la plupart des sociétés sans écriture, ce qui rend problématique, évidemment, la construction d'un tableau paradigmatique tel que chaque lexème serait défini par une combinaison spécifique de traits qu'il serait le seul à posséder. Si l'opération est possible au niveau supérieur des taxinomies, elle devient de plus en plus difficile à mesure que l'on descend vers les niveaux inférieurs. Par exemple, au niveau supérieur d'une taxinomie, au niveau forme de vie, un oiseau peut être en effet défini par des traits contrastifs, le fait qu'il ait des ailes et qu'il ait un bec, un poisson par le fait qu'il a des nageoires et des écailles, encore que ça n'englobe pas l'ensemble des, des êtres qui vivent dans l'eau. Mais on imagine, en revanche, la longueur et la complexité des définitions composites nécessaires pour caractériser, par des attributs distinctifs, un taxon de niveau générique ou spécifique, par exemple, l'une ou l'autre de la dizaine d'espèces de fauvettes qui sont reconnues dans la nomenclature populaire française. Il faudrait au moins une demi-douzaine de traits caractéristiques pour les classer ou définir un taxon par ses attributs. Donc c'est à cause de ces difficultés que la tentative d'analyser les taxinomies ethnobiologiques au moyen de tableaux contrastifs ou de traits contrastifs d'attributs a été abandonné il y a une quarantaine d'années au profit de l'idée que la catégorisation des êtres vivants s'opère par la reconnaissance d'un schème ou d'un modèle. Et de fait, les débats contemporains sur les taxinomies ethnobiologiques portent moins sur leur structure que sur les types de mécanismes psychiques que l'on suppose être à la source des jugements d'inférence ou de conformité que ces taxinomies mobilisent. En la matière, je fais bref parce que ce n'est pas véritablement l'objet de développement qui m'intéresse ici, on peut distinguer à grands traits entre deux approches principales. L'une met l'accent sur la théorie des prototypes ou de la prototypicalité d'une psychologue qui s'appelle Eleanor Roche, R-O-S-C-H, c'est-à-dire sur l'idée que certains membres d'un taxon en constituent le prototype dans la mesure où ils sont perçus comme les plus représentatifs de ce taxon. C'est la position qu'adopte Brent Berlin, par exemple. Pour intéressante que soit la théorie de la prototypicalité, toutefois, elle n'explique pas le trait le plus saillant des classifications taxonomiques, à savoir l'inclusion hiérarchique. L'autre approche s'appuie sur une théorie modulaire de la cognition inspiré des travaux de Chomsky et de Géry Fodor, et postule que, tout comme il existerait des mécanismes cognitifs spécialisés dans l'activité langagière ou dans la reconnaissance des visages, il y aurait des modules cognitifs spécifiques destinés à la reconnaissance et au classement des organismes. À l'intérieur de cette deuxième tendance, il faut en outre distinguer entre deux points de vue, au moins. L'un est défendu par un auteur comme Scott Atran, qui pose que la sémantique des termes d'espèces naturelles est fondamentalement différente de la sémantique des autres domaines d'objets, du fait qu'un organisme serait toujours conçu comme possédant une sorte de nature intrinsèque rendue responsable de la permanence de son identité. C'est un peu comme l'idée de la physis aristotélicienne. Il y a quelque chose qui est... il est dans la nature de l'organisme d'être ce qu'il est. Le point de vue alternatif est alimenté par une branche de la psychologie du développement dont les principaux protagonistes sont Susan Carey et Frank Kyle, et repose sur l'hypothèse que la perception et la structuration conceptuelle du domaine des êtres vivants seraient fondées sur la constitution ou sur l'actualisation au cours de l'ontogénèse d'une théorie naïve, au sens que je donnais à ce terme tout à l'heure, c'est-à-dire une théorie des propriétés des organismes non humains. Donc un système d'inférence quant au comportement attendu des organismes non humains. C'est un point de vue dans lequel se reconnaissent des auteurs comme Dan Sperber ou Pascal Boyer. Néanmoins, pas plus que la théorie cognitive de la prototypicalité, les théories qui se réclament d'une approche modulaire de la cognition ne paraissent pouvoir rendre compte de l'inclusion hiérarchique qui est pourtant la principale caractéristique des taxinomies ethnobiologiques. Les unes comme les autres ne permettent pas non plus de comprendre les mécanismes de reconnaissance à l'œuvre dans les rangs supérieurs des classifications. En effet, l'extrême diversité morphologique des organismes subsumés sous les taxons les plus englobants, comme ce que Brent Berlin appelle le règne, plante ou animal, ou bien la forme de vie, poisson, palmier, etc., ou même le niveau intermédiaire, feuillus, conifères, légumes, etc., cette extrême diversité morphologique rend peu probable, à ce niveau en tout cas, que la prototypicalité ou qu'un dispositif modulaire puisse jouer un rôle dans ses rangs supérieurs. En effet, si par exemple la classification prototypique paraît tout à fait vraisemblable au niveau générique des taxinomies, pour le taxon pomme, une pomme ressemble beaucoup à une autre pomme, et donc on peut imaginer qu'il y a un prototype de la pomme, ou le taxon rouge-gorge, un spécimen de rouge-gorge va ressembler globalement et de manière contrastive particulièrement à un autre spécimen de rouge-gorge. En revanche, il est peu probable que la prototypicalité soit employée dans les rangs supérieurs, comme fruits ou comme oiseaux, qui ne sont pas très saillants sur le plan perceptif. On voit mal, en effet, comment réunir sur la seule base de leur morphologie, dans le même taxon oiseau, des êtres aussi dissemblables qu'un colibri et un manchot, ou bien dans le taxon fruit, une cerise ou un ananas. À ces mécanismes cognitifs, réputés universels, mais qui ne rendent pas compte de façon unitaire des particularités des classifications ethnobiologiques, Brent Berlin rajoute une théorie de la motivation sémantique des noms d'organismes. Selon Berlin, en effet, je le cite, « la nomenclature ethnobiologique représente un système naturel de nomination, très révélateur de la manière dont les gens conceptualisent les objets vivants dans leur environnement, un système naturel de nomination. Donc ce n'est plus seulement la catégorisation comme une opération perceptive et cognitive qui est ici assignée à une loi ou un principe naturel, mais bien les mécanismes linguistiques au moyen desquels la catégorisation s'exprime. Et dans ce domaine, la motivation du signifiant par le signifié, selon Berline, serait attestée par le fait, souvent noté par ailleurs, que des noms de plantes et d'animaux font un large usage métaphorique des traits caractéristiques de la morphologie, du comportement, de l'habitat et surtout des messages sonores des organismes qu'ils désignent, et notamment les onomatopées stéréotypées référant donc aux messages sonores. C'est particulièrement le cas dans les noms, par exemple, d'oiseaux. Mais elle viendrait aussi, selon Berline, de ce qu'un segment du niveau générique des nomenclatures ethnobiologiques serait transparent, comme il le dit, comme il l'écrit, sur le plan sémantique, en ce qu'il reflèterait des associations psychologiques entre le sens et le son. Par exemple, les phonèmes à haute fréquence acoustique évoqueraient des mouvements brusques et rapides et seraient plus communs dans les noms d'oiseaux, tandis que des phonèmes à basse fréquence acoustique évoquant des mouvements lents et continus seraient typiques des noms de poissons. Pour faire cette proposition, Brent Berline dit s'inspirer de Jacobson, Roman Jacobson, qui interprète en effet des correspondances motivées entre le son et le sens, mais à l'intérieur du système, des oppositions distinctives d'une langue particulière et non en fonction des propriétés acoustiques de tel ou tel phonème pris indépendamment. C'est une idée qu'il développe dans le livre qu'il a écrit avec Wo dans The Sound Shape of Language de 1979. Jacobson s'entend. À la différence de Jacobson, toutefois, Berline fait de la motivation sonore une caractéristique universelle a priori des nomenclatures ethnobiologiques. Or, comme Lévi-Strauss l'avait remarqué avec justesse dans un commentaire de Jacobson, justement, dans un commentaire du livre de Jacobson, si l'arbitraire du signe linguistique peut être mis en doute une fois le signe constitué, une fois le signe immergé dans un milieu sémantique singulier dont il va subir l'effet d'attraction, cet arbitraire demeure indubitable quand on se place du point de vue de la ressemblance, c'est-à-dire quand on compare les signifiants d'un même signifié dans plusieurs langues. Et donc en faisant d'un domaine de l'activité langagière un système de dénotation quasi automatique, traduisant des contraintes naturelles s'exerçant partout et toujours de la même façon, Berline se situe, il le reconnaît d'ailleurs lui-même aisément, dans le droit fil de la théorie thomiste de l'abstraction, comme l'écrivait saint Thomas, « Nomina debent naturae rerum congruere », les noms doivent être en accord avec la nature des choses. C'est d'ailleurs une citation de saint Thomas que Brent Berline fait dans son livre « Ethnobiological Classification ». Revenons un moment à l'opposition entre classification prototypique et classification par attribut à l'échelle des taxinomies. Cette opposition paraît relever d'une sorte de querelle doctrinale, car au fond, l'identification des discontinuités s'appuie selon les niveaux de la hiérarchie, soit sur la reconnaissance de la prototypicalité, à savoir des régularités morphologiques, soit sur la reconnaissance de complexes d'attributs, à savoir des régularités comportementales et environnementales, dans des proportions variables à chaque fois et sans que l'un des mécanismes ne soit jamais complètement éliminé au profit de l'autre. En effet, au niveau générique, des taxinomies, donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc au niveau pomme ou rouge-gorge, l'identification, elle est déclenchée par le souvenir général de la forme que vient confirmer ou raffiner le savoir encyclopédique quant à certains attributs typiques de l'organisme identifié. Mais au niveau supérieur, par contre, l'identification se fonde sans doute sur quelques traits distinctifs des taxons, mais qui sont eux-mêmes recomposés dans un ensemble cohérent qui présente bien des caractères d'un prototype. Car les attributs des taxons supragénériques sont rarement indépendants les uns des autres, et le fait qu'ils soient mémorisables sans peine vient en particulier de ce qu'ils se présentent comme des systèmes de corrélats fortement intégrés. Les animaux à plumes possèdent en général des ailes et un bec et sont capables de voler. Donc c'est un système là de corrélats. De même, la typicalité du membre prototypique d'un taxon de niveau générique vient en partie du fait qu'il représente le plus haut degré de corrélation et de prédictibilité des attributs au sein de la catégorie. Et dans les classifications utilitaires qui font appel à un savoir encyclopédique, par contraste, ce n'est pas la morphologie qui est la base de la prototypicalité, qui sert de critère discriminant, ce sont bien des classes contrastives d'attributs, diurnes ou nocturnes, mangeables ou immangeables, prédateurs ou proies, terrestres ou aériens, etc. Bref, si le modèle cognitif de la classe d'attributs est peu réaliste pour ce qui est des niveaux génériques des taxinomies, il demeure la meilleure option tant pour les niveaux supérieurs que pour les classifications qui font appel à un savoir encyclopédique et à un savoir symbolique, où le principe de la prototypicalité paraît peu probant, faute d'exemplaires saillants sur le plan perceptif. Alors, quelles sont les conséquences concernant la méthode comparative que l'on peut tirer de cette brève excursion dans l'analyse des classifications réputées reposer sur l'application déductive de principes cognitifs à des phénomènes culturels? On notera d'abord la fonction ancillaire concédée à l'anthropologie qui est, au fond, limitée ici à fournir des illustrations comparatives, à savoir des cas concrets de classification locale, afin de vérifier l'expression correcte de caractéristiques cognitives déterminées au préalable par des expériences de psychologie, lesquelles ont été menées en fonction d'objectifs et selon des méthodes extérieures à l'anthropologie, car définies a priori par la nature purement psychique, psychologique, si vous voulez, des problèmes posés. On est effectivement, dans ce cas, aux antipodes de la méthode de la généralisation inductive à la Evans-Pritchard, dont j'ai beaucoup parlé dans les séances, dans les leçons précédentes, puisque la comparaison, dans ce cas, se présente comme une simple confirmation sur la base d'un large échantillon fourni par l'ethnographie de ce qui avait été isolé ailleurs et par d'autres moyens, à savoir un universel cognitif. Auquel cas, l'anthropologie n'aurait plus de raison d'être, hormis dans sa phase initiale, à savoir l'ethnographie, réduite qu'elle serait à pourvoir les matériaux interculturels nécessaire à la vérification des hypothèses développées par la psychologie cognitive. Et c'est bien ainsi, du reste, que nombre de praticiens de la psychologie interculturelle conçoivent désormais le rôle des anthropologues comme des sortes de laborantins de terrain. Il me semble toutefois que la situation de l'anthropologie vis-à-vis de la psychologie n'est pas aussi désespérée qu'il n'y paraît, pour un ensemble de raisons dont certaines sont apparues en filigrane lors de mes considérations précédentes. En premier lieu, la gamme des phénomènes culturels que des universaux cognitifs seraient en mesure d'expliquer demeure très réduite en dehors du domaine de la catégorisation des formes de vie. En outre, et pour plausible que paraisse la base psychique ou cognitive que certains de ces universaux peuvent parfois fournir à l'expression de phénomènes culturels, ils peinent à rendre compte de la diversité de leurs manifestations telles que les sciences sociales, et l'anthropologie en particulier, les inventorient. C'est le cas, par exemple, de l'une des explications cognitives d'un fait culturel ayant reçu le plus d'écho, celle développée par Pascal Boyer, de la sélection et de la stabilisation des idées religieuses, thème qu'il a développé dans plusieurs ouvrages, en particulier dans The Naturalness of Religious Ideas. L'hypothèse initiale, elle est simple et élégante. Les représentations religieuses se fixent, se mémorisent, se transmettent bien, car elles sont saillantes. Et elles sont saillantes parce qu'elle viole une partie des attentes des théories ou des ontologies naïves dont les humains sont dotés très tôt dans leur ontogénèse, à savoir ces mécanismes inférentiels que j'ai évoqués tout à l'heure, au moyen desquels les humains interprètent le comportement des objets présents dans leur environnement, tant en termes physiques, la stabilisation des trajectoires, etc., que mentaux, l'attribution d'états mentaux, etc. Donc, par exemple, c'est un exemple que je reprends de Boyer, si les fantômes sont si communs dans les représentations religieuses de nombreux peuples, c'est qu'ils confirmeraient certaines attentes intuitives des humains quant aux propriétés des personnes. Les fantômes ont généralement des pensées, ils ont des souvenirs, ils ont des affects, ils ont une capacité de raisonner. Donc, ils répondent aux attentes d'une psychologie naïve, si on peut dire. Mais ils sont aussi réputés produire des effets matériels. Ils peuvent. Ils peuvent traverser des solides, ils peuvent être dans plusieurs endroits à la fois, etc. Et donc, ils infirment d'autres attentes intuitives, non pas de la psychologie naïve, mais d'une physique naïve, c'est-à-dire de ce que l'on peut faire comme inférence comportement, concernant le comportement des objets dans l'environnement. Et c'est cette combinaison d'intuitif et de contre-intuitif qui permettrait de comprendre la mémorabilité des fantômes, donc leur succès comme représentation collective. Mais une fois qu'on a expliqué de la sorte la genèse d'une représentation religieuse au sens large, c'est-à-dire au moyen d'une sorte d'opération déductive s'appliquant à l'induction réputée universelle d'un sujet humain, encore faut-il pouvoir expliquer aussi la diversité des formes sous lesquelles cette représentation se présente, en ce cas, la diversité des propriétés imputées aux fantômes. Certains fantômes sont nocturnes, d'autres sont diurnes, certains sont amicaux, d'autres sont agressifs, certains sont connus de ceux à qui ils se révèlent, d'autres non, et c'est évidemment là que la déduction s'arrête, car rien dans le processus cognitif, à la source de la saillance du fantôme, ne peut rendre compte des expressions qu'il adopte ça et là. Et afin d'expliquer ces variations, et c'est ce que fait Boyer lui-même d'ailleurs, il faut alors recourir à des corrélations locales avec d'autres faits culturels qui infléchissent le processus déductif vers une induction standard, c'est-à-dire vers la transposition de propriétés d'un phénomène connu à une situation nouvelle dans laquelle ces propriétés acquièrent une vertu explicative. Ainsi, chez les intels, chez les Européens, chez les Écossais, si vous voulez, les fantômes sont agressifs parce que ce sont des morts qui manifestent de cette façon leur ressentiment à l'égard d'une offense qui leur a été faite de leur vivant. Sont donc introduits ici des croyances sur la justice, sur la vengeance, sur la vie après la mort, sur les relations entre parents et voisins, croyances qui n'étaient en rien contenues dans les processus cognitifs réputés à l'origine de la saillance et de la stabilisation de la représentation culturelle du fantôme. Donc la déduction initiale à partir d'un mécanisme cognitif n'est pas suffisante et elle exige qu'on lui ajoute une rafale d'induction pour que le phénomène soumis à l'analyse soit expliqué dans sa particularité. Revenons à présent à l'opération déductive dans le cadre plus restreint de la catégorisation des formes de vie. On a pu voir que les mécanismes cognitifs invoqués comme étant à la source de la catégorisation n'expliquaient qu'une partie du phénomène. L'explication par la prototypicalité, de même que l'explication ayant recours à une inférence causale de type essentialiste, permet éventuellement de rendre compte de l'opération par laquelle des exemplaires divers d'un ensemble d'organismes sont subsumés dans une classe. Elle ne concerne en rien l'inclusion hiérarchique, qui est pourtant le trait le plus marquant des taxinomies ethnobiologiques. Et lorsque Brent Berlin écrit que les humains ne construisent pas un ordre taxinomique, mais qu'ils le discernent, il fait une inférence, autrement dit une induction, et non une déduction à partir d'une loi générale. Il en va de même lorsqu'il affirme une motivation universelle du son par le sens dans la nomination des organismes, qui est une hypothèse qui est sans doute séduisante, mais qui demeure entièrement inductive, faute d'un principe cognitif généralement admis qui pourrait en constituer le fondement. On a vu aussi que si l'application déductive de schèmes cognitifs, comme l'inférence causale ou la prototypicalité, est plausible pour expliquer l'activité de catégorisation dans les niveaux moyens des taxinomies ethnobiologiques, elle rend difficilement compte de celle-ci dans les niveaux supérieurs de ces taxinomies, le niveau, par exemple, règne ou forme de vie, où c'est plus vraisemblablement la classification par attributs qui régit le processus de catégorisation. Donc, contrairement à ce qu'exigerait une bonne logique déductive à la John Stuart Mill, il faut donc supposer l'existence de deux mécanismes cognitifs distincts et sous certains aspects contradictoires, l'un avec l'autre, pour expliquer, au fond, un même phénomène culturel. On peut enfin se demander si la définition même du phénomène culturel à expliquer, à savoir les taxinomies d'êtres vivants, et donc les moyens idéalement déductifs employés pour le faire, ne sont pas commandés par un biais expérimental originel, celui de l'enquête, par questions et réponses visant à mettre en évidence les inclusions hiérarchiques. Que de telles inclusions existent et que l'on puisse les repérer dans des énoncés spontanés, c'est absolument indubitable, surtout lorsqu'on se fie aux indices linguistiques. C'est par exemple le cas dans les noms de cultivars qui sont formés dans la plupart des langues par la combinaison d'un taxon générique et d'un déterminant qui vient spécifier la variété. Carotte de Poissy, chou de Bruxelles, pomme rainette, etc. Il est hors de doute ici, évidemment, que le taxon désignant la variété fait de la variété une sorte d'exemplaire du taxon de niveau supérieur, une sorte de carotte, une sorte de pomme, une sorte de chou. Il y a donc bien subsomption d'un taxon sous un autre. Il est courant aussi qu'un taxon puisse servir de substitut à d'autres taxons, je l'ai mentionné au début de la leçon, dans certains énoncés, ce qui constitue une claire indication, évidemment, de l'inclusion sémantique d'un taxon dans un autre. Dans le lexique achuar, par exemple, il existe un terme, pinchu, qui désigne un groupe de rapaces de taille moyenne qui englobe 6 taxons. Le faucon à collier, kukukui, le faucon rieur, kauta, le faucon à collier noir, makwa, le faucon gris, hishimp, le faucon gru, vivikiat, et surtout le milan à bec crochu, pri-pri-pinchu. On n'aura pas de peine à reconnaître dans ce dernier taxon, pri-pri-pinchu, le prototype de la classe des rapaces pinchu, en ce qu'il est vu par les achuars comme le plus représentatif de cette classe et son idéal type. Et c'est pourquoi il prête son nom à la classe. Et lorsqu'un achuar aperçoit de loin un oiseau dans le ciel, la silhouette et le vol qui a la silhouette et le vol caractéristique d'un rapace, il pourra dire il y a un pinchu, pinchu pahwe. Et s'il est trop loin, évidemment, pour distinguer l'espèce. S'il est plus proche et s'il arrive à distinguer l'espèce, il pourra éventuellement remarquer qu'il s'agit d'un pri-pri-pinchu, donc le déterminant pri-pri, qui va caractériser cette espèce de rapace, signifie côté. Et on peut l'employer pour signifier, dans certaines expressions, la partie d'un tout. Autrement dit, l'inclusion hiérarchique est ici manifeste, d'autant que cet emploi du nom d'un des taxons subsumés, seul ou accompagné d'un déterminant, afin de désigner le taxon englobant, est un phénomène linguistique extrêmement courant. Donc, inférer une inclusion hiérarchique dans de tels cas est légitime, car les énoncés qui en sont les indices sont produits sans avoir été sollicités. Ainsi que le conseiller judicieusement Harold Conklin, qui est l'un des grands pionniers des études sur les classifications ethnobiologiques, les taxons et les commentaires qui les accompagnent doivent être recueillis dans des situations naturelles, lors d'une interaction spontanée avec une plante ou un animal d'un informateur s'exprimant dans sa langue et non, de préférence, au moyen de questionnaires et de tests qui tendent à prédéterminer les réponses apportées. Or, nombre d'anthropologues contemporains, lorsqu'ils appliquent déductivement des principes cognitifs isolés par la psychologie expérimentale afin d'expliquer la structure des classifications des formes de vie, procèdent à des vérifications comparatives en utilisant au contraire des méthodes standardisées. Je pense par exemple à Brent Berlin, qui demandait à ses informateurs à Wahun, donc population de l'Amazonie péruvienne, d'écrire directement les noms de plantes et d'animaux qui leur paraissaient aller ensemble. Donc avec de telles méthodes, évidemment, on court le risque d'inventer des catégories inclusives, des taxons inclusifs, du fait des circonstances expérimentales, lesquelles circonstances expérimentales incitent les informateurs à proposer des réponses sous la forme d'associations entre des organismes qui leur paraissent plausibles sous l'inspiration du moment, sans que ces associations soient pour autant culturellement attestées dans l'usage courant. C'est un travers qu'avait remarqué Jack Goody, il y a quelques années, lorsqu'il pointait dans « The Domestication of the Savage Mind » ce biais des anthropologues étudiant les classifications populaires, de considérer celles-ci comme si elles étaient utilisées et mémorisées à la manière des formes de tradition lettrée, c'est-à-dire composées de tableaux synoptiques, de listes d'attributs, de listes de termes, de classifications hiérarchiques, de contrastes binaires, etc. Or, notez Goody, les classifications de formes de vie dans les sociétés sans écriture sont plus contextuelles et moins réflexives que les classifications savantes, dans la mesure où elles reflètent plus des liens spontanés entre un concept et un événement que des liens réflexifs entre un concept et un autre concept. Bref, dans de pareils cas, et loin de constituer une confirmation ou une infirmation de l'hypothèse originelle par des données, la vérification au moyen de la comparaison du bien fondé d'une déduction devient au contraire une procédure permettant d'entériner les présupposés que l'hypothèse contient. Et donc la comparaison n'est plus alors qu'une sorte de luxe additionnel destiné à donner de la vraisemblance culturelle et de l'épaisseur empirique à des résultats qui sont largement donnés d'avance. J'ai dit en préambule à cette leçon qu'il existe une autre manière d'envisager la méthode déductive, fondée sur une combinaison entre l'induction d'hypothèses abstraites par généralisation à partir d'un savoir ethnographique aussi ample que possible, d'une part, et d'autre part, l'élaboration de modèles déductifs permettant de déployer ces hypothèses au moyen de la comparaison. Toutefois, il existe plusieurs façons de concevoir cette dernière phase, la phase de la variation contrôlée, façon que j'examinerai dans la prochaine leçon, ce qui m'offrira l'occasion, en conclusion du cours, de préciser les caractéristiques du type de comparatisme qui a maintenant ma faveur, et donc plus généralement du genre d'anthropologie dont je me suis efforcé de me faire l'avocat.